Et c'est l'heure d'Info Week-end avec Monsieur Lionel Sabot.
Un nouveau drame sur les routes de Calédonie. Un homme d'une cinquantaine d'années a perdu la vie hier à Lifou. 21 personnes sont mortes sur nos routes depuis le début de l'année. C'était hier l'élection à la présidence de l'UNC. Catherine Rees, seule candidate en lice, a été reconduite pour un deuxième mandat consécutif. Vous l'entendrez dans le journal. Le Secours catholique organise sa grande collecte annuelle et sa quête ce week-end. Les bénévoles seront présents aujourd'hui devant les anciennes partenaires et devant les églises demain. Après la censure du Conseil constitutionnel, Bruno Retailleau annonce la rédaction d'un nouveau texte de loi sur l'allongement de la rétention des étrangers dangereux en centre administratif. Dans l'Aude, le feu est fixé, il ne progresse plus. Les habitants évacués de leur domicile ces derniers jours redoutent le spectacle de désolation qu'ils vont découvrir à leur retour. Et puis à la fin de ce journal, nous passerons en revue les principaux rendez-vous sport du week-end en Calédonie, en métropole et dans le monde. En Calédonie, c'est demain que se déroulera la 91e édition de la Casino Coupe Clark. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. À la une, ce nouvel accident mortel de la circulation. Les faits se sont produits hier matin à Lifou, dans le secteur de la tribu de Nang. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, vraisemblablement une vitesse excessive, un homme d'une cinquantaine d'années, seul au volant de son véhicule, a effectué une sortie de route. L'homme est décédé des suites de ses blessures, malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers. Depuis le début de l'année, 21 personnes ont perdu la vie sur les routes de Calédonie. L'actualité politique avec le congrès extraordinaire du FLNKS qui se tient aujourd'hui à la maison commune de la tribu de la Conception. À l'ordre du jour, le bilan du congrès de Saint-Louis, la position du front après la signature de l'accord de Bougival et les perspectives de travail. Dominique Fauchy est le secrétaire général de l'UC en charge de l'animation du FLNKS.
Au vu de la situation politique, des discussions qui ont eu lieu notamment à Bougival, ont débouché sur la signature du projet d'accord, le congrès devra se positionner dessus et puis voir les perspectives pour la suite de la stratégie du front. On attend que les groupes de pression se positionnent clairement, qu'on ait une seule et même voix par rapport à l'analyse du projet d'accord. Bon, les groupes de pression se sont déjà exprimés, ils ont déjà réuni leurs instances respectives. Maintenant, c'est dans l'unité, voir comment nous, on sort de là et puis on emmène des perspectives sereines pour la suite du travail.
Et l'ouverture de ce congrès extraordinaire du FLNKS est prévue à 9h30 avec le discours d'ouverture de son président Christian Théin en visio depuis la métropole. Toujours dans l'actualité politique, des vives tensions entre les élus de la province des Îles. Hier, lors de la commission plénière du congrès, elle était réunie à huis clos pour examiner le plan détaillé des réformes budgétaires, sociales et fiscales préparées par le gouvernement. Michael Juneski.
Jacques Lallier, qui avait perdu un temps son mandat après sa condamnation à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, siégeait en effet dans l'hémicycle du boulevard Vauban puisqu'il a été réintégré dans ses mandats. Il était présent après avoir reçu un courrier de la présidente du Congrès, nous a-t-il expliqué.
J'ai reçu une invitation de la présidente du Congrès, je suis venu. L'État avait aussi donné un avis, une analyse, et le Congrès avait donné aussi son point de vue et a décidé quand même de me convoquer. Alors effectivement, il y a un vide juridique sur l'ensemble des dispositifs, qui sait qui doit trancher. Les décisions sont ceux du Conseil d'État, ça dépasse un peu les institutions locales, notamment dans le cadre juridique. Donc moi, j'avais un peu explicité ma démarche pour mieux informer les élus, comme quoi j'ai fait des recours et puis que la décision qui a été... donné par le juge des référés au sujet des deux collègues qui ne sont pas de même ethnie que moi, c'est aussi applicable à mon égard.
Mais la présence de Jacques Lallier dans l'hémicycle du Congrès n'a pas plu du tout à Mathias Oueneux, son successeur à la présidence de la province des Îles. Il a fait une déclaration publique pour protester contre la réintégration de Jacques Lallier et il a estimé que son retour au Congrès était une honte. Il nous a confirmé qu'il allait faire un recours contre cette décision du Congrès de réintégrer Jacques Lallier.
Je conteste la décision qui a été prise par la présidente du Congrès parce que pour moi, c'est une décision qui est purement administrative. Il n'y a pas de fondement juridique sur la décision. Donc c'est pour ça que c'est attaquable. Non, je m'étais engagé ce matin à dire j'engagerai ma responsabilité en tant que président de l'exécutif de la province à déposer un recours déjà contre... La décision de la présidente du Congrès d'intégrer l'ancien président mais aussi par rapport à la convocation de la plénière dans laquelle il est revenu, parce qu'eux, ils veulent surfer sur le sujet de Calédonie ensemble entre Gomez et Philippe Michel. Hein, et lui, les deux, ils n'ont pas encore été condamnés. Lui, il a déjà été condamné.
Jacques Lallier a protesté à son tour contre les propos de son collègue et a annoncé qu'il allait lui aussi former un recours. Et il déplore l'attitude de Mathias Ouaneux.
Le dit président de la province des îles, parce que lui, il était sur ma liste, c'est quand même moi qui étais de liste. Il aurait pu avoir un peu de respect, aller d'abord en réunion de groupe au lieu d'aller faire des déclarations en congrès. C'est sa responsabilité. Et de toute façon, je ne vais pas m'abaisser à continuer à discuter de cela. Il a dit à la présidente qu'il veut faire un recours sur la délibération par rapport à ma présence. Mais il faudra qu'il aille jusqu'en Conseil d'État. Et entre-temps, il y aura une décision du Conseil constitutionnel dont j'ai sollicité en QPC. Question prioritaire. Je crois que ça doit être vers le 23 septembre que le Conseil constitutionnel doit décider.
La tension entre Jacques Lallier et Mathias Ouaneux, qui a fini par quitter la commission plénière, est palpable. Jacques Lallier a déjà annoncé il y a quelques jours qu'il souhaitait retrouver son siège de président de la province des îles. La décision que rendra le Conseil constitutionnel fin septembre permettra peut-être de clarifier la situation.
En bref, l'Assemblée générale du Pays Kanak, qui s'est réunie hier, s'est penchée sur l'accord de Bougival. Dans un communiqué publié hier soir, il indique demander aux signataires de ce projet d'accord de revoir l'orientation qu'il donne au processus de décolonisation initié par l'accord de Nouméa. Il réclame également de recevoir le comité de rédaction proposé par Manuel Valls pour examiner dans quelles conditions il est possible de revoir ses orientations. Il en dit enfin que le Sénat coutumier se prononcera définitivement sur l'accord de Bougival lors du congrès du Pays Kanak qui doit avoir lieu à la fin du mois. Jean-Pierre Jaïwe invite les signataires FLNKS de l'accord de Bougival à revenir autour de la table à l'occasion du comité de rédaction. Cela permettrait, selon lui, d'éclaircir certains points. Le chef de la délégation unie estime qu'il faut tout faire pour que l'accord arrive à son terme. Il l'a dit hier midi alors qu'il était l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Une interview de Jean-Pierre Jaïwe à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Elle sera rediffusée dans son intégralité demain soir. Ce sera juste après notre édition de 17h45. Et puis ce matin, nous vous proposerons la rediffusion du Club politique Radio Rythme Bleu. Au sommaire, encore et toujours le projet d'accord de Bougival avec le message publié par Manuel Valls qui annonce la convocation du comité de rédaction, mais aussi le congrès extraordinaire du FLNKS qui se réunit ce samedi autour d'Elisabeth Noir, Bernard Deladrière, Luc Steinmetz, Ismet Kurtovic et Pierre Bretenier se sont interrogés sur la difficulté de faire de la pédagogie sur un accord évolutif. Ils ont aussi évoqué la mission de Claire Durieux, membre de la mission interministérielle. Ils sont enfin revenus sur la polémique autour de la foire de Bourail et sur les communiqués, notamment de l'EPKNC, un club politique que vous pourrez réécouter sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Il est 7h09, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Du Causquincari est à Bourail. Découvrez Bourail Bricolage. Sur plus de 300 mètres carrés, des milliers de références, une équipe locale et des offres promotionnelles. Rendez-vous en magasin ou appelez le 322-332.
Retrouvez toute la richesse de la culture de Wallis et Futuna le 9 août prochain au marché de Boulari au Mont d'Or. Un marché exceptionnel de 8h à 17h animé par 7 groupes de musique et 3 de danse traditionnelle. Artisanat, produits vivriers, manège pour les enfants. Venez nombreux, téléphone 96 07 09.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et 7h10, la suite d'Info Week-end avec Lionel Sabou.
Le texte avait été écrit après le meurtre de la jeune Philippine l'an dernier à Paris par un Marocain sous OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Après la censure par le Conseil constitutionnel de l'allongement de la rétention des étrangers dangereux en centre administratif, Bruno Retailleau réagit. Le ministre de l'Intérieur dénonce un désarmement de l'État face aux étrangers dangereux et annonce la rédaction d'un nouveau texte de loi. Jacques Serret pour Europe 1.
Bruno Retailleau réagit avec gravité et solennité. Ce sont ses mots. J'ai toujours placé la sécurité de nos concitoyens au premier plan par rapport aux droits individuels des criminels, écrit le ministre dans un communiqué de 2 pages. S'il est sage, juste inconstitutionnel, le fait d'allonger la durée de rétention des étrangers dangereux de 90 à 210 jours, l'hôte de Beauvau rappelle que rien, absolument rien dans le droit européen ne s'oppose à cette durée. La directive européenne retour permettant une rétention pouvant aller jusqu'à 18 mois en l'absence de perspective d'éloignement immédiat. Extrêmement préoccupé, Bruno Retailleau fait le constat que notre arsenal juridique décroche désormais complètement du droit européen. Concrètement, développe-t-il, ceci veut dire que les Français n'ont pas le droit à la même protection que leurs voisins européens. Bruno Retailleau dit ne pas s'y résoudre, c'est pourquoi il annonce un nouveau texte modifié qu'il présentera au plus tôt au Parlement. Plus fondamentalement, le ministre estime que ces sujets doivent être tranchés par le peuple souverain, par référendum.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Un an d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis probatoire pendant 3 ans, ont été requis contre l'homme qui a allumé sa cigarette sur la tombe du soldat inconnu cette semaine. Le titre de séjour de ce Marocain de 47 ans lui sera retiré, annoncé ce matin le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Le Conseil constitutionnel a censuré hier une partie de la loi Duplomb. Depuis, les réactions sont très nombreuses. Les producteurs de noisettes français dénoncent le choix des sages d'avoir annulé la réintroduction d'un insecticide qui élimine les nuisibles dans les vergers de noisettes. Sans lui, les récoltes pourraient être affectées, comme l'explique Grégory Borde. Il est producteur de noisettes et secrétaire de la coopérative Unicox dans le Lot-et-Garonne.
Moi, pour ma production de noisettes, c'était une potentielle arme pour pouvoir lutter contre le balanin et la punaise diabolique, les deux ravageurs que l'on a dans nos vergers. Le problème, c'est qu'à ce jour, on n'a plus aucune arme contre ces deux ravageurs. Donc finalement, depuis 4 ans, les populations de punaises augmentent, les dégâts augmentent progressivement. Et alors 2024 a clairement été une très très mauvaise année en termes de qualité de récolte. Donc aujourd'hui, sans ces solutions de protection, on n'a plus rien pour défendre notre production. C'est ce qu'on demande, c'est tout simplement... en responsabilité et en cohérence, étant donné qu'à aujourd'hui, nous n'avons pas accès à l'acétamipride, à ce moment-là, il faut nous financer vite et fort la recherche. Et pour ça, tout simplement, il y a besoin de moyens financiers pour déployer des moyens humains sur le terrain pour faire avancer ces solutions.
Grégory Borde, producteur de noisettes dans le Lot-et-Garonne. Dans l'Aude, le feu est fixé, il ne progresse plus. Si les pompiers espèrent bientôt en avoir la maîtrise complète, tous les habitants n'ont pas encore pu regagner leur domicile et plusieurs routes restent encore coupées à la circulation. Des habitants qui redoutent maintenant le spectacle de désolation qu'ils vont découvrir à leur retour dans leur domicile. Stéphane Burkett pour Europe 1.
Les 2000 personnes évacuées retrouvent progressivement leur domicile. Les derniers à attendre font contre mauvaise fortune bon cœur, à l'image de Marine.
En mode un peu camping, là on joue aux jeux de société, donc c'est un peu, on va prendre ça comme des vacances, quoi. On joue aux 1000 bornes. Voilà, ça nous occupe. Ça sentait très très fort encore hier, enfin on ne pouvait pas rester dehors, et pas du tout de réseau.
L'odeur des cendres reste effectivement très présente. Des foyers sont privés d'électricité malgré le travail titanesque d'Enedis pour réparer les câbles de haute tension que l'on voit encore à terre. L'eau potable n'est pas rétablie partout et le réseau téléphonique est par endroits précaire. Mais le pire, c'est ce qui n'est pas réparable, déplore Jean-Marc Vialard, un aquarelliste local qui sait bien que les décors qu'il a peints sur ses tableaux n'existent plus aujourd'hui.
Et là, ce sont des paysages de garrigues corbières où je vais régulièrement peindre. Qu'est-ce que je vais avoir après tout ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est la folie. La désolation de voir maintenant un paysage quasiment lunaire, ça fait mal au cœur, bien sûr.
Certaines routes resteront coupées le temps de permettre le passage des convois des pompiers. 1850 hommes sont toujours à pied d'œuvre dans cette garrigue dévastée. Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Stéphane Burgat, Europe.
En bref, une nouvelle vague de chaleur va toucher la France. 11 départements du sud sont placés en vigilance orange canicule. Ils seront 28 demain. Les températures comprises entre 34 et 34 degrés sont attendues dans les jours qui viennent. À l'étranger, toujours en bref, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra demain. Après l'annonce du plan israélien pour le contrôle de Gaza, certains pays ont déjà pris des mesures, comme l'Allemagne qui a décidé de suspendre les exportations d'armes qu'Israël pourrait utiliser en prenant le contrôle de la zone. Avant une possible rencontre avec Donald Trump, Vladimir Poutine s'est entretenu avec le président chinois et le premier ministre indien, des alliés clés du Kremlin. Le tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourrait avoir lieu dans les tout prochains jours. Et puis on l'a appris juste avant ce journal, l'astronaute américain Jim Jim Lovell, commandant de la célèbre mission lunaire Apollo 13, qui avait manqué de tourner à la catastrophe en 1970 après une explosion en vol, est mort ce matin à l'âge de 97 ans. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la NASA. On connaît Jim Lovell comme le commandant donc de la mission Apollo 13, mais il aurait pu entrer dans l'histoire en devenant le premier homme à marcher sur la Lune. Il était en effet le 21 juillet 1969, la doublure de Neil Armstrong, qui a donc été le premier homme à marcher sur la Lune. Un petit peu pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Il est 7h16, une nouvelle pause dans le journal. Dans un instant, on revient à l'actualité en Calédonie.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
La ville de Nouméa organise un concours pour le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
Si vous avez entre 18 et 30 ans, le permis B, un diplôme de secourisme et un casier judiciaire vierge, c'est un bon début. Récupérez votre dossier de candidature auprès de la direction des ressources humaines située à l'hôtel de ville de Nouméa ou sur le site internet de la ville www.nouméa.nc.
Ce concours se déroulera de septembre à novembre 2025 avec des épreuves sportives, écrites et orales. Retrouvez toutes les infos sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Attention, vous avez jusqu'au vendredi 22 août pour vous lancer.
T'es monté dans ta belle auto pour venir au marché de Farino.
En hommage à Mamie, c'est sur le thème gourmand que se tiendra le marché de Farino ce dimanche 10 août sur la place de la mairie de 8h à 13h. Au programme, vente de produits du terroir calédonien. Animation particulière pour un marché spécial Mamie Fogliani. Ambiance ukulélé et danse tahitienne, concours culinaire et dégustation de plats notés par vous, visiteurs. Vous pourrez vous installer sur le deck pour vous régaler de bons petits plats vendus sur les stands de restauration. Le marché de Farino vous attend pour une agréable matinée alliant bonne humeur et convivialité ce dimanche.
RRB pour être au cœur de l'actualité.
Info Week-end, la suite du journal avec vous, Lionel Sabot.
Et retour sur le territoire, Catherine Ries réélue à la présidence de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Elle était la seule candidate à sa succession avec sa liste pour une université responsable et engagée. Catherine Ries a hier fait le bilan de ses 4 années passées à la tête de l'UNC, un mandat challengé par la crise Covid et les émeutes du 13 mai, mais tout de même marqué par de nombreuses avancées comme le projet Fala ou bien la création de nouvelles licences. Pour ce nouveau mandat, la présidente de l'UNC espère accompagner la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie en développant certaines filières.
Le développement de formations autour des secteurs stratégiques, autour de la santé, du sanitaire, du social, de l'agronomie, l'agronomie tropicale, les systèmes alimentaires durables, la transition énergétique également avec la décarbonation de l'industrie, et puis ce projet de Sciences Po Pacifique qui va former des jeunes et moins jeunes de l'ensemble du Pacifique pour pouvoir avoir cette connaissance, cette culture commune de l'Océanie pour pouvoir la porter dans les organisations internationales.
Et le conseil d'administration de l'université a aussi été renouvelé le 22 juillet dernier. Il est composé de 32 membres, en majorité de personnel de l'université, de 4 représentants d'étudiants élus par leurs pairs et de responsables et personnalités du monde socio-économique. La filière ananas répond aux inquiétudes concernant la qualité de leurs produits. Il y a une semaine, l'UFC Que Choisir alertait sur la présence de taches noires à l'intérieur des ananas, les rendant impropres à la consommation. À la suite de ces signalements, l'initiative de l'interprofession fruits et légumes et la Chambre d'agriculture et de la pêche ont convoqué une réunion d'urgence pour tenter d'apporter une réponse immédiate. Les champignons se développent en général 5 à 6 jours après la récolte et sont favorisés par l'humidité et la fraîcheur. Plusieurs précautions permettent d'éviter leur croissance, détaillée par la directrice de l'interprofession fruits et légumes de Nouvelle-Calédonie, Chloé Fillinger.
Alors là, effectivement, la filière a voulu se mobiliser de manière très réactive pour donner une réponse immédiate à ce problème. Au niveau de la production, les recommandations, ça va être vraiment par rapport au stade de maturité et surtout de bien transmettre la date de récolte sur les cageots pour les acheteurs professionnels. Ensuite, sur le stockage intermédiaire, la filière effectivement se mobilise pour garantir un délai le plus court possible entre la récolte et l'étal de fruits et légumes. Mais après, à la maison, on peut aussi faire en sorte de le consommer le plus rapidement possible, sous 2 jours à peu près, c'est ça la recommandation des professionnels. Et surtout, ne pas soumettre l'ananas à des chocs thermiques, donc ne pas les mettre au frigo, mais ne pas non plus les mettre dans une zone qui va être trop chaudes.
Et il s'agit là de réponses immédiates. Une rencontre est prévue dans les prochaines semaines entre professionnels de la filière et partenaires techniques pour trouver des solutions durables.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à notre question d'hier sur laquelle les auditeurs d'RRB se sont exprimés par SMS sont très partagés. Ils sont 50% à trouver utile et adapté le déploiement du système FR Alert dont le dispositif a été déclenché jeudi matin sur de nombreux téléphones. Ils sont donc aussi 50% à trouver que le déploiement du système FR Alert n'est pas utile et adapté. Merci pour votre participation et rendez-vous désormais lundi pour une nouvelle question du jour. Le Secours catholique organise sa grande collecte annuelle et sa quête ce week-end. Les bénévoles seront présents aujourd'hui devant 14 enseignes partenaires, dont le Grand Nouméa, mais aussi à La Foy, à Bouraille ou encore à Conné. Ils seront également devant les églises demain dimanche. Un temps fort pour le Secours catholique en raison de la hausse brutale de demandes d'aide depuis les violences de 2024. Marie-Françoise Méhoun est la présidente du Secours catholique.
C'est très inquiétant. On a une augmentation énorme des demandes d'aide. On a des nouvelles personnes qui habituellement s'en sortent, mais qui aujourd'hui, avec un chômage à 100 et quelques mille francs, ne s'en sortent pas et qui ont besoin de notre aide pour effectivement boucler les fins de mois. Le profil, il a vraiment changé depuis l'année dernière. Et évidemment, le nombre de demandes a explosé. Nous avons des nouvelles personnes, mais pas que des nouvelles personnes. Nous avons aussi certaines associations, certaines structures. Par exemple, les services sociaux du Médipôle, par exemple, qui nous sollicitent. Le FSH nous sollicite également. Nous sommes dans le cadre d'une urgence sociale absolue pour cette année. Et j'appelle chaque Calédonien, chaque Calédonienne, là où il se trouve, de nous aider, d'aider des associations caritatives et notamment de participer massivement à la grande collecte annuelle du Secours catholique qui se déroulera donc ce week-end.
Et votre aide est essentielle pour le Secours catholique car aujourd'hui l'association n'a plus les moyens de fonctionner. On retrouve Marie-Françoise Méhoun.
Aujourd'hui, nous sommes donc à mi-année. Nous avons déjà par exemple utilisé tout le budget qui annuellement est affecté à une année complète pour répondre aux demandes d'aide. Nous sommes aujourd'hui obligés d'arrêter notre réponse de demande aux dons. Nous avons suspendu les aides alimentaires, les aides que le secours fait annuellement, parce qu'on n'a plus de budget. Les subventions aussi tarissent. On a beaucoup de financements qui ne sont plus au rendez-vous. Donc oui, les demandes aujourd'hui, chaque jour qui passe, les demandes augmentent.
Mais rappelons qu'une collecte sera organisée demain devant les paroisses avec une messe dédiée à Rivière-Salée. Dans l'actualité festive, une journée spéciale Wallis et Futuna, c'est au marché municipal de Boulari, au Mont d'Or, Michael Juneski.
L'occasion de se plonger dans l'ambiance de Wallis et Futuna pour cette journée placée sous le signe du partage et de la tradition. Au programme, à partir de 8h, des danses traditionnelles, de l'artisanat et des saveurs authentiques à découvrir.
L'Olympique de Nouméa fête aujourd'hui ses 95 ans. Le club Omnisport est né le 8 août 1930.
Et à l'occasion de cet anniversaire donc, qui a lieu aujourd'hui sur le site de Sainte-Marie, le club se replonge dans son histoire. Un relais sera réalisé le matin à travers la ville et passera par l'ensemble des infrastructures de l'Olympique Nouméa avant une journée festive sur le site historique du club à Sainte-Marie. L'occasion de mettre à l'honneur les bénévoles qui font vivre les différentes sections tout au long de l'année. Les 95 ans de l'Olympique de Nouméa, ça se passe jusqu'à 18h sur le site de Sainte-Marie. La province sud organise un après-midi d'animation art et bien-être à partir de 14h au château Hagen. Une animation proposée dans le cadre des rendez-vous l'art au château. Autre rendez-vous du week-end, la kermesse de l'ACAPA, l'association calédonienne d'aide aux personnes âgées qui se tiendra dans ses locaux du Faubourg Blanchot. Et pour terminer, direction la place de la mairie de Farino qui accueillera demain de 8h à 13h le marché de Mamie qui sera un spécial hommage à Mamie Fogliani. Le thème de la journée sera gourmand.
Il est 7h25, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive et la météo.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Le Rouf vous invite à découvrir sa carte aux multiples saveurs qui égayeront vos papilles. Sans oublier ses formules incontournables. La formule du midi, à partir de 3400 francs, ou encore le menu à partir de 5000 francs à déguster midi et soir. Le Rouf, profitez d'un cadre exceptionnel face au lagon. Réservation au 25 07 00. Plus d'infos sur la page Facebook Le Rouf.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Et 7h25, l'actualité sportive avec Lionel Sabot.
Et on va parler volley pour commencer. Une Calédonienne est sélectionnée pour le championnat du monde dames avec l'équipe de France. Michael Juneski.
Sabine Aiwegene figure bien dans la liste dévoilée aujourd'hui par le sélectionneur César Hernandez. La réceptionneuse évoluant dans le club métropolitain de Chamalières sera donc de l'aventure sous le maillot bleu après avoir notamment participé au dernier match en Ligue des Nations en juillet. Elle a été retenue dans un groupe de 14 joueuses qui participera donc à cette compétition en Thaïlande du 22 août au 7 septembre. L'équipe de France féminine n'a plus joué le championnat du monde depuis 1974. Les Bleus vont participer d'abord à un tournoi dès la semaine prochaine, puis à un stage de préparation en Corée du Sud.
Le Sport Co, c'est aussi le basket et l'équipe de France masculine qui joue en ce moment un match de préparation avant l'Euro 2025.
Après une première victoire contre le Monténégro 81-75, les Bleus poursuivent leur montée en puissance avec ce deuxième match amical face à la Grande-Bretagne et une équipe de France largement rajeunie en l'absence des stars Victor Wembanyama, Evan Fournier ou Rudy Gobert. À la mi-temps, le score était de 35-27 à l'avantage des Français. L'Euro de basket se tiendra en Lettonie du 27 août au 14 septembre.
Un mot de football également, Michael, avec le gardien Lucas Chevalier qui a signé au Paris Saint-Germain.
C'est officiel. L'ancien portier de Lille a rejoint Paris pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec le champion de France et vainqueur de la dernière Champions League. À 23 ans, il a signé un contrat de 5 ans avec le PSG pour succéder à l'Italien John Donnarumma dans les cages parisienne du côté des terrains cette fois. En attendant la reprise de la Ligue 1 le week-end prochain, c'est la deuxième division qui reprendra ses droits dès ce soir, début de la Ligue 2 avec le match Guingamp-Le Mans et demain matin Troyes-Grenoble, Pau-Annecy, Rodez-Nancy, Dunkerque-Clermont, Montpellier Red Star et Laval contre l'AS Saint-Etienne.
En Calédonie, du football aussi avec le début des phases finales de la Super League. Quatre clubs sont engagés dans les barrages ce samedi.
Oui, les quatre équipes les moins bien classées à l'issue de la phase régulière qui s'affronteront pour tenter d'accéder à la suite de la compétition. À partir de 14h au stade Noumadélé, Horizon Passo sera opposé au SC Nejeu et à 17h30, l'AS Mondor fera face au CA Saint-Louis. Les deux vainqueurs de ces confrontations se retrouveront ensuite dans un dernier barrage où le gagnant rejoindra les demi-finales le week-end du 13 septembre.
Et puis demain, ce sera le grand rendez-vous de la saison hippique, la Casino Coupe Clark.
Une épreuve phare dans le calendrier sur l'hippodrome Henri Millard avec le public attendu nombreux pour assister à la course la plus prestigieuse de l'année qui fera donc son retour à Nouméa. Une épreuve de référence selon Nicolas Schneider, le président de la Fédération des courses hippiques de Nouvelle-Calédonie.
La Casino Coupe Clark, c'est le point d'orgue de la saison chaque année. C'est le point de rendez-vous pour mesurer la qualité des échevages locaux puisque cette épreuve regroupe essentiellement des chevaux nés élevés sur le territoire. Donc la course référente par rapport à son histoire et ce qu'elle représente dans les mémoires calédonienne. C'est la course bien sûr qu'il faut gagner et puis c'est primordial dans notre sport de pouvoir juger de la performance, la progression des élevages que l'on voit au travers effectivement de cette magnifique épreuve d'année en année.
La 91e édition de la Casino Coupe Clark à partir de 15h ce dimanche et tout au long de la journée d'ailleurs, il y aura 7 courses au programme ainsi que des animations autour de la passion du cheval. Ça se passera donc sur l'hippodrome Henri Millard de Nouméa.
Allez, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous Jennifer.
Merci. Pas de vigilance particulière aujourd'hui Lionel. Ce matin, ciel chargé avec des averses du nord des Loyautés, une grande moitié nord de la côte est. On retrouve aussi un ciel un peu plus nuageux sur le nord-ouest ainsi que vers l'île des Pins. Beau temps ailleurs, l'alizé d'est atteint 10-15 nœuds. Il est plus faible sur l'ouest, compris entre 5 et 10 nœuds. Et cet après-midi, un soleil généreux arrive sur le sud-ouest. Ailleurs, les nuages seront nombreux. Quelques ondées seront possibles près du relief vers l'île des Pins et aux Loyautés. L'alizé de secteur est, lui, soufflera entre 10-15 nœuds, 15-20 nœuds sur la pointe nord, voire 20 nœuds, rafale à 30 nœuds sur la région de Nouméa. L'extrême nord-ouest sera partiellement déventé et les températures maximales seront quasi stationnaires. Elles atteindront 24 à 27 degrés, Lionel.
Merci, Jennifer. Il est 7h30 pétante. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec grand plaisir à 8h pour d'autres infos. Bon week-end, bon samedi. À tout à l'heure.